C'est le fruit d'un certain nombre de choses, mais d'abord et avant tout, et dans une proportion très importante, des marchés financiers, hein, puisque nous gérons des portefeuilles, et donc ces portefeuilles évoluent avec les cours de bourse, avec le prix des obligations, et donc c'est mathématiquement ce reflet. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous étions dans une situation fin 2014, début 2015, donc le nouveau conseil d'administration que je préside était arrivé au mois de juillet, où nous étions assez inquiets sur les risques intrinsèques qui existaient dans le portefeuille dont nous assurons la gestion. Et donc nous avons fin 2014, début 2015, dérisqué le portefeuille. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, réduit considérablement les proportions d'actions. Hein, vous savez que les actions sont plus volatiles que les obligations, donc on a préféré se positionner plus sur les obligations et on a réduit la duration des obligations. Plus la duration est longue, plus l'obligation va être soumise à des fluctuations plus importantes. Donc on est arrivé en 2015 avec un portefeuille plus ramassé, on avait réduit, on avait reconcentré le portefeuille, et beaucoup moins risqué. Ce qui fait que le résultat 2015, qui est l'expression de la volatilité et de l'évolution des marchés financiers, est un bon résultat. Si nous n'avions pas effectué les changements que nous avons effectués, nous aurions été probablement dans une situation plus délicate.
Question peut-être un peu naïve, oui. 16 millions d'euros, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour subventionner des déficits d'un dicastère ou l'autre, ou est-ce que c'est pour faire de nouveaux investissements pour vos clients?
Non, c'est d'abord, alors, les nouveaux investissements pour les clients, ils ont été pris dans les 16 millions. Dans les 16 millions, il y a toutes les charges, et donc nous avons différents projets, notamment au niveau informatique, d'amélioration des systèmes de gestion de portefeuille, on a investi beaucoup en matière de services clients, enfin on a fait un certain nombre de choses dans différents domaines, c'est déjà dans nos charges, et donc c'est reflété dans le bottom line de 16 millions. Non, c'est ce qu'on a dit à d'autres reprises, c'est la contribution que nous versons au Saint-Père pour accompagner le Saint-Père dans ses œuvres, que ce soit la propagation de la foi, ou que ce soit les œuvres de charité du Saint-Père. Donc nous versons un dividende au propriétaire, si je peux parler de façon un peu crue, et donc ensuite c'est au Saint-Père de décider quelle sera la meilleure utilisation de ses fonds.
Certains ont dit que le IOR finançait ou investissait plutôt dans des compagnies de carburant, pétrolifères, etc. Est-ce que c'est une réalité? Ce qui serait un peu paradoxal après l'encyclique Laudato Si, ou non?
Non, c'est faux. C'est pas vrai. D'abord, on a très très peu d'actions. 1,7% de notre portefeuille propre à IOR est investi en actions et il n'y a pas ce type d'actions dans le portefeuille. Ceci dit, dans un passé un peu plus lointain, nous avions eu des proportions en pourcentage d'investissement d'actions beaucoup plus importants. Et donc peut-être que dans le futur, les marchés d'actions nous inviteront à accroître nos investissements. Il faut que l'on mette, et nous ne l'avons pas encore fait aujourd'hui, il faut que l'on mette en place à l'Institut un processus de gestion avec des critères catholiques socialement responsables qui nous permettent justement de respecter le message du Saint-Père. C'est un travail à venir, on ne l'a pas encore fait. On a quelques bases, mais qui sont assez rudimentaires. La réalité quotidienne ne nous embête pas puisque nous avons peu d'actions, mais c'est certainement un travail à faire dans les années à venir.
Vous parlez du futur, est-ce que vous avez des ambitions pour 2016 particulières?
Oh, je crois que les ambitions sont assez simples, c'est-à-dire reconstruire une relation à long terme avec nos clients. Pourquoi reconstruire? Parce que cette relation, il y a plusieurs années, a pu être abîmée. On a vu aussi dans tout le processus de rémédiation, on a beaucoup sollicité notre clientèle sur des problématiques administratives, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est plus dans une phase de reconstruction positive avec les clients, améliorer la qualité du service, améliorer les produits qu'on leur soumet et toujours respecter des règles de principe d'équité extrêmement fermes, extrêmement précis, ce qui doit faire la grande différence de l'IOR par rapport à toute autre institution financière.
C'est vrai que l'IOR a, dans la presse, au moins une réputation qui n'est pas toujours à son avantage. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la transparence? On sait qu'il y a 4935 comptes qui ont été fermés depuis 2012. Quand même, cette année, 544, si je ne me trompe pas, signalement à l'AIF, dont j'imagine vous êtes aussi à l'origine. Est-ce que le IOR aujourd'hui est à 100% transparent?
Le IOR est aujourd'hui à 100% transparent. Et deuxièmement, le IOR est aujourd'hui à des règles en place de contrôle contre le blanchiment d'argent et de procédures de ce qu'on appelle en anglais de « know your customer » qui sont aussi solides que ce qui peut exister dans beaucoup d'autres établissements dans le monde. Donc les investissements qui ont été réalisés, les efforts qui ont été réalisés, le temps qui a été passé par les équipes est considérable. Sur l'aspect de transparence fiscale, nous sommes en train de signer des accords fiscaux, plus exactement le Saint-Siège est en train de signer des accords fiscaux avec d'autres pays d'où proviennent certains des clients de l'Institut. Et donc il n'y a pas meilleure preuve de transparence que d'être dans une situation où on va annuellement fournir aux autorités fiscales des autres pays l'ensemble de l'information sur les comptes des clients qui sont dans nos livres. Donc vous avez aujourd'hui, quand vous additionnez une politique très drastique en matière de qui peut ouvrir un compte à l'IOR et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut ouvrir un compte, ce qui n'existait pas dans le passé, et deuxièmement, d'accords fiscaux et donc de grande transparence fiscale, on se met dans une situation où Aucune des personnes qui voudraient éventuellement abuser d'un établissement financier pour des raisons négatives ne s'intéresserait à Lior.
Vous avez dit que l'AIF avait été un blessing, donc une bénédiction pour Lior. Pourquoi ?
Mais parce qu'un régulateur avec une certaine connaissance, avec une certaine maturité telle que l'AIF là aujourd'hui, est un élément très important dans la mise en place de cet environnement extrêmement précis, tant en matière de règles que de lois à respecter. Donc l'AIF a aidé, l'AIF a, dans une certaine mesure, entraîné Lior dans ce processus d'évolution et a forcé même, quelquefois, Lior à évoluer vers plus de règles, plus de contrôles, plus de respect que ce qui pouvait être le cas dans le passé. Et quand on voit une augmentation de ce qu'on qualifie en anglais de Suspicious Transaction Report en 2015, c'est vraiment l'illustration du travail de fond qui a été fait et l'analyse d'un certain nombre d'opérations passées et qui sont ressorties maintenant. Donc ce chiffre n'est pas le reflet de ce qui se passe en 2015, mais beaucoup plus le reflet de ce qui s'est passé dans le passé.
Donc de la mafia qui blanchit de l'argent, tout ça s'est clarifié.
Je ne sais pas très bien ce que le mot mafia veut dire, mais oui. En tout cas, de personnes qui n'auraient pas dû avoir de compte à Lior et qui en avaient, et qui peut-être avaient certains types d'activités qu'elles n'auraient pas dû avoir et qu'on n'aurait pas dû leur laisser avoir. Au-delà aussi du fait qu'on avait des clients qui n'avaient tout simplement pas de raison d'avoir un compte à Lior, qui n'ont jamais rien fait de mal, et on a aussi fermé leur compte, parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories des clients qui ont vocation à avoir un compte à Lior.
Une dernière question, comment se passe aujourd'hui la collaboration, la communication avec le secrétariat pour l'économie ou le conseil des cardinaux ?
Alors, la relation entre le conseil d'administration, si je puis utiliser ce terme, et la commission des cardinaux est très claire, les statuts le précisent de façon très claire, et nous nous rencontrons très fréquemment. Depuis que j'ai pris la présidence de Lior, on a installé une règle où tous les deuxièmes conseils d'administration, donc nous avons à peu près 8 conseils d'administration par an, donc 4 fois par an, notre réunion est commune, cardinaux et laïcs, membres du conseil d'administration, ce qui a comme énorme avantage de nous permettre de partager avec les cardinaux le type de problématiques concrètes que l'on vit dans la gestion d'un institut de ce type-là. Un exemple, comprendre ce que c'est exactement que ces règles de Know Your Customer et de lutte contre le blanchiment de l'argent, avoir un exemple précis du type de problématique qui peut se poser. Pourquoi est-ce que on accepte le compte de certaines institutions et pas d'autres ? Donc tout ça, il faut, souvent quand c'est vécu, c'est encore mieux compris.